Et au cours de mon message, il y a un moment donné, je vais vous demander de venir m'assister dans le jugement. C'est-à-dire que je vais être le juge et vous allez être mes jurés. C'est OK ? Vous n'avez pas reçu votre lettre, la convocation ? Non ? Parce que j'avais demandé à mon greffier d'envoyer. Greffier, il est où ? Normalement, vous auriez dû recevoir un recommandé. Vous savez, en audition de témoin, en France d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais ça, c'est un devoir, devoir citoyen. On peut vous inviter, madame, monsieur, si vous payez des impôts, vous êtes en France, ce qui est à peu près le cas de tout le monde, vous pourrez recevoir un courrier et être invité à un procès, à être juré. Du coup, c'est un peu la place que je vais vous demander de prendre. OK, on lit ensemble, vous êtes prêts ? Attachez vos ceintures. Jésus s'en alla sur le mont des Oliviers. Et à l'aube, si on peut juste faire moins de bruit, s'il vous plaît. Il se présenta de nouveau dans le temple. Et tout le peuple, les Grenoblois, les Isérois, tout le peuple venait au pied de Jésus. Et ils s'étaient assis. Et Jésus les enseignait. Alors les spécialistes de la loi, les pharisiens, les professionnels religieux de l'époque, amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi, dans le code pénal de l'époque, Moïse nous ordonne de lapider ce genre de femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Il disait cela pour tendre un piège à Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, il se mit à écrire sur le sable dans la terre sans faire attention à eux. Mais comme il persistait encore à l'interroger, il se redressa, imaginez la scène, il écrit par terre, puis tout d'un coup il se redresse, il regarde ces gens-là, il dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Et de nouveau, donc il se rabaisse à nouveau et il écrivit sur le sol. Et en entendant cela, ils se retirèrent les uns par un, en commençant par les plus vieux jusqu'au dernier et plus jeunes. Alors Jésus se redressa, et il ne voyait plus que cette femme, et lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamné ?» Et elle répondit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit, « Moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Va désormais et ne pêche plus. » Quand vous lisez la Bible, chers amis, vous constaterez que le message du Christ, où Jésus, la Bible nous dit, il parcourait les routes et les villages, répandant le bien et la lumière auprès de tous, chacun. En fait, Jésus invitait chaque personne, madame, monsieur, qui que vous soyez aujourd'hui, Jésus invitait le monde à vivre une vie différente. Et en fait, il est venu comme peu de personnes l'ont fait jusqu'avant lui. Jésus est venu renverser, il est venu abattre les murs de la religiosité qui parfois nous coupent l'homme, la femme de Dieu, à un tel point que ces professionnels de la religion voulaient mettre à mort Jésus. Et lors de cette histoire, en fait, quand on regarde ici, ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on devine dans le texte et ce qu'on voit un petit peu en arrière, c'est qu'il y a eu un complot. Qui est complotiste ? Il y a eu un complot. En fait, ils ont décidé de tendre un piège à Jésus. Et pour pouvoir piéger Jésus, ils ont piégé une femme. Vous êtes avec moi ? Et dans le code pénal de la religion de l'époque, ce qui codifie d'ailleurs toute leur vie sociale, qui ritualise absolument et qui normalise toute leur vie, dans le code social de l'époque, c'est que si tu avais une relation sexuelle hors mariage, tu devais être mis à mort. Oh ! T'imagines les mecs si c'était de nos jours ? Je te dis, les dégâts que ça pourrait causer. Et parmi ces religieux de l'époque qui voulaient piéger Jésus, il y a un gars qui a eu une idée brillante. Il a dit peut-être qu'on pourrait essayer de le piéger par rapport à la loi, par rapport au code pénal. Et faudrait en fait lui soumettre un cas concret. Et tout d'un coup, il y a une organisation d'un complot de gens très très influents. Ils vont piéger cette femme pour piéger Jésus. Et en fait, finalement, après, on assiste à cette espèce de mise en scène. C'est un peu comme une sorte de mascarade vulgaire où il y a cette femme-là qui a d'ailleurs rien vu venir. Et tout d'un coup, elle réalise, elle voit qu'elle est tombée dans ce piège-là. Et quand je regarde le texte, moi, la première question que je me pose, c'est où est-ce qu'il est le mec ? Les amis, elle est surprise en flagrant délit d'adultère et on n'a pas pécho le gars. Explique. Non, mais moi, première question que je pose, c'est explique-moi comment t'as fait pour attraper seulement la fille et pas le mec. Où est. Non, mais pour un adultère, aux dernières nouvelles, il faut une femme et un amant. Vrai ou pas vrai ? Où est le mec ? Et d'ailleurs, il s'est enfui par la fenêtre, ouais, peut-être. Je ne sais pas où il est, mais en tout cas, ce qui montre que, peut-être qu'il faisait partie d'ailleurs de l'équipe, va t'en savoir. Mais visiblement, ce n'était pas un problème pour eux, ce n'était pas un problème pour ces gens-là. Et maintenant, nous voici ensemble, tous, vous et moi, projetés au cœur de ce procès, dans un espèce de tribunal improvisé aujourd'hui. Et du coup, laissez-moi vous présenter les protagonistes de l'histoire, juste après ici. Nous avons, à l'accusation, les religieux de l'époque, les conspirateurs, ces stratèges de l'ombre. Pour eux, comprenez-vous que la femme qui a été piégée, c'est qu'un menu gibier, c'est la proie qu'ils recherchent. Jésus est vraiment la proie qu'ils recherchent. Nous avons la femme, Monica Bellucci, qui est la victime. La victime, pardon, c'est plus la loi, c'est la dame en bas qu'on voit, c'est la loi, c'est la justice. C'est elle, entre guillemets, d'après eux, qui est la victime. Nous avons la foule. Faites un peu de bruit, la foule. Un peu plus énervé que ça. Yes. La foule, mais un peu moins fort. La foule ne sait même pas pourquoi ils sont là. J'ai attrapé quelqu'un, je lui dis, viens là, on va s'exciter un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, je trouvais que dans la bande de Gaza, c'était un peu calme ces derniers temps. Oui, monsieur, je trouvais que ça manquait un petit peu d'entrain. Il fallait que ce soit un peu agité. Et puis, il y a la foule qui est là, ils sont pris par ces espèces de maniganceurs religieux. Et puis, il va se passer quelque chose, il y a un procès, il y a quelque chose. Ah, génial, on suit. Et puis, il y a l'accusé. Il y a cette femme qui est là. Cette femme qui a été piégée. Et en fait, cette femme, elle est rien. On ne lui donne même pas de nom. On dit que c'est la femme adultère. C'est-à-dire qu'elle est... Sa faute, c'est son nom. T'imagines ? Son crime, c'est son nom. Elle est déshumanisée. Elle n'a même pas le droit à la parole. Tu as un procès où tu n'as rien le droit de dire. Et peut-être, là, je la vois en larmes, peut-être que sa femme, elle regrette. Mais on s'en fout, on n'a rien à foutre que tu regrettes. Tu vas mourir. Elle n'a pas le droit de se défendre, elle est comme une poupée de chiffon qu'on jette devant Jésus. Et très certainement, on l'a rouée de coups. Tout le monde lui a craché dessus. Il y a une espèce de défouloir de toute la méchanceté humaine qui s'abat sur elle. Et ça représente un peu, vous savez, quand je vois cette histoire, c'est un peu le pouvoir des hommes sur le corps de cette femme qui est là. Et ça montre toute cette espèce de domination. Et puis il y a des gens qui disent, le point levé, le mouvement MeToo qui serait là, etc. J'aimerais juste vous dire une chose, les amis, c'est que Jésus était bien avant, pour la défense de la femme, bien avant MeToo, bien avant tout ce que vous voulez. Jésus la voit et Jésus veut la sauver. Mais Jésus voit également aussi que c'est un piège. Vous êtes avec moi dans cette histoire ? Mais il y a aussi des hommes qui sont là, mais il y a aussi des femmes qui ont une pierre à la main prête à la lapider. Vous savez, la méchante, la traînée qui essaye de voler, la séductrice, la tentatrice qui essaye de voler mon mari, elle va manger une pierre. Est-ce que vous me suivez ? Il y a des hommes et des femmes qui sont là pour se venger sur une femme. Waouh ! Vous êtes avec moi dans l'histoire ? Et si tu mets la prochaine diapo, et il y a Jésus qui se présente comme un avocat. Et cette scène, elle est extraordinaire. J'aime en fait les cinéastes, et c'est dans le film La Passion de Mel Gibson où on voit cette femme qui s'approche vers Jésus et elle lui attrape le pied. Elle dit, s'il y a une personne qui peut être de mon côté, s'il y a une personne qui peut me sauver, c'est peut-être lui. Et elle se met, et si tu mets juste la prochaine diapo, elle se met à l'abri de Jésus. elle se met à l'abri de Jésus et en fait, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et du coup, on a ces gens-là qui viennent vers Jésus et qui lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider ces femmes. Et toi, qu'en dis-tu ?» Il disait cela afin de lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Ils n'accusaient pas cette femme, ils voulaient tendre un piège à Jésus. Vous êtes avec moi ? Du coup, on a piégé une femme pour piéger Jésus. La femme, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est tuer Jésus. Mais Jésus veut sauver cette femme. Et en fait, quand il lui demande de se positionner dans cette histoire, il demande à Jésus, et c'est là le piège, de prendre deux positions. Dites avec moi deux positions. La première position, c'est de prendre la position d'avocat. On te demande de la défendre, alors qu'elle est non défendable. Et la deuxième position, c'est de prendre la position de juge. Tu dois la juger. Alors je sais que ça ne se fait pas dans le code pénal français, mais c'est ce qu'ils ont décidé de faire à ce moment-là. Et c'est très compliqué à ce moment-là pour Jésus. En fait, techniquement, il ne peut pas nier que cette femme a bien commis cette faute. Elle doit payer. Il doit y avoir une sentence. Vous savez, quand vous avez fait une connerie et que vous êtes attrapé, vous devez payer, vous devez régler, c'est comme ça. Et d'après le code pénal de l'époque, elle mérite la mort, elle va mourir, c'est sûr. Tu peux rien faire à ça. C'est un fait. Donc Jésus ne peut pas amoindrir ça. Il ne peut pas diminuer la faute, il ne peut pas chercher des excuses. Et de l'autre côté, il voit cette femme. Elle a des ecchymoses, elle a le cœur qui bat la chamade. Et à quoi pense-t-elle ? Peut-être qu'elle regrette, peut-être qu'elle se dit « mince, finalement le gars qui m'a séduit, c'était un con, c'est un connard, il m'a manipulé. » Peut-être qu'elle regrette, peut-être qu'elle dit « j'aurais pas dû le suivre. Il est venu, là, du miel plein la voix, la star de la télé-réalité, il m'a dit qu'il m'amenait dans son chameau, qu'il allait me faire visiter le Sahara. Jamais j'aurais dû le suivre. » Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Et vous savez, on a tous le témoignage de personnes qui, face à la mort, revoient toute leur vie. Vous connaissez ? Ils voient toute leur vie défiler. On revoit notre enfance, les parents, on revoit les échecs scolaires, mon premier job. Elle va mourir dans quelques minutes. Et peut-être qu'elle repense à toute sa vie, cette femme. Peut-être qu'elle s'imagine, peut-être qu'elle revoit toute son enfance comme un travelling, ça défile. Et à côté de ça, elle sent la haine des gens. Elle sent la honte. Elle sait qu'elle n'a pas fait les bons choix dans la vie. Elle pense peut-être à la religion. J'ai peut-être un jour essayé. Ça n'a pas marché. En fait, ce que je voudrais vous dire, mes amis, c'est que cette femme-là, c'est vous, c'est moi, qui avons essayé parfois de faire le bien et qui nous échouons très souvent. Cette femme, c'est vous, c'est moi, quand on se plante, quand on est jugé par des gens qui tiennent une pierre prête à nous lapider. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Cette femme, c'est vous, c'est moi, quand j'ai merdé, profondément merdé, quand j'ai tout planté et que maintenant je dois payer les conséquences. Et je suis comme acculé, derrière moi j'ai pas de porte de sortie. Cette femme vient se réfugier sous la défense de Jésus et à ce moment-là, c'est le seul espoir qui lui reste. C'est la seule personne qui semble être de son côté. Et s'il y a quelque chose qui peut se faire à ce moment-là, c'est Jésus. Et tout ce qu'elle décide de faire dans un ultime espoir, c'est de se placer sous sa protection en espérant qu'il se passe quelque chose. Wow. Jésus est là. Et en fait, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Et comprenez, quand on est acculé, que les gens sont prêts à nous jeter la pierre, il y a tellement de peur qui s'installe. Prochaine diapo, c'est Georges Brassens, chanteur athée, anti-religieux, convaincu. Georges Brassens disait « Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis juste derrière. » C'est-à-dire qu'on se reconnaît dans cette femme. Vous lui jetez peut-être la pierre, mais moi, en fait, ce qui est touchant avec ce monsieur-là, quelque part, il dit « Moi, je suis comme elle. » Et ce qui est touchant maintenant, c'est Jésus qui se lève comme un avocat. Et Jésus, quand il se lève, il relève le monde. Il vient, il voit le piège, Il voit tout ce qui se passe. Il voit la soif de sang, de déchiqueté. Il voit la meute enragée. Et Jésus, il calme. Il ne parle pas. Il apaise. Il ne bouge pas. Et il va faire quelque chose qui est assez troublant. Il va se mettre à écrire dans le sable quelque chose. Et le texte ne nous le dit pas ce qu'il a écrit dans le sable. Mais il a écrit quelque chose. Donc imaginez la salle, tout le monde énervé. Faites la foule un peu énervée. Allez. Ouais, un peu plus énervé quand même. Ok, calmez-vous. Je suis Jésus. Il écrit dans le sable des choses. Il se lève. Et voici la phrase qu'il dit, prochaine diapo. Oui, Jésus se lève et dit, c'est celui qui se considère sans péché, sans faute, celui qui n'a jamais rien fait de mal dans la salle, lui jette le premier la pierre. Jésus sait que cette femme, elle est coupable. En fait, ce qui est touchant avec Jésus, c'est que ce n'est pas un négationniste des fautes du genre humain. Jésus n'essaye même pas de défendre l'indéfendable. Il ne répond même pas, il se met à écrire dans le sable. Et en fait, il dit, il y a un privilège de jeter la pierre, c'est celui qui est complètement sans faute, morale d'aucune sorte. En fait, pour jeter une pierre, il ne faut jamais avoir péché, il faut être pur. Puis il se rabaisse et il se met à écrire. Qu'écrit-il? Que dessine-t-il? Et puis il y a des gens qui viennent et peut-être qu'ils étaient comme ça, la pierre à la main, en train d'essayer de voir ce que Jésus écrivait. Et j'aime l'idée, et j'aimerais vous proposer plutôt l'idée que Jésus a écrit dans le sable les fautes dans lesquelles nous nous retrouvons tous tôt ou tard. Jésus a peut-être écrit dans le sable menteur, médisant, voleur, arnaqueur. Et les uns après les autres, finalement, ils ont été accusés par le peu de conscience qu'il leur reste et ils sont partis. Et le récit nous montre que tous sont partis. Parce que les amis, voici, et ça c'est la réalité, c'est que tous ont péché, tous ont fauté. D'après le code moral de Dieu, c'est qu'on a tous foiré à un moment donné dans notre vie. Et vous savez ce que c'est que l'Église? C'est le club des imparfaits. C'est le club des imparfaits. Ben vous êtes des imparfaits. C'est le club des gens qui ont foiré et qui acceptent à un moment donné qu'un changement de vie est possible. Ils acceptent que Jésus peut changer et transformer de l'intérieur. Et ce récit montre que tous, on a foiré, on a besoin de nous soumettre à un moment au jugement de Dieu et à son pardon. Mais à la différence de pointer un doigt accusateur vers une personne, ben Jésus, il pointe le doigt accusateur dans le sable, là où le sable peut effacer, là où le vent peut effacer nos fautes. Et ça, c'était brillant. Du coup, le Jerusalem Times de l'époque a écrit « magistral ». J'ai regardé le Figaro, époustouflant, le Point, stupéfiant de splendeur. Et le Washington Post de l'époque a dit « coup de théâtre à Jérusalem, Jésus désarme la foule et sauve une femme condamnée. » Waouh ! C'était extraordinaire, Jésus a été un avocat et il a fait quelque chose de brillant. Il a retourné les accusateurs face à l'accusation. Tout est tombé. Elle est nettoyée, elle est, libérée, déculpabilisée, et c'est bon. Sauf que maintenant, Jésus était l'avocat, et maintenant, il doit être le juge. Où est ma robe de juge? Il y avait une robe ici. Yes. Du coup, je vous ai dit que vous alliez être mes jurés associés. Tiens, est-ce que tu veux me tenir ça? Du coup, imaginez que... Comment ça? C'est un coiffeur qui m'a ramené ça. Bon, quelqu'un vient me la mettre, là? Bon. Elle est trop petite pour moi. Bon, tiens, vas-y, c'est toi qui fais ça. Ah, c'est dehors. Okay. Excusez-moi, messieurs, dames. Voilà. Je suis le juge. Je vais représenter... Eh, crank-moi pas, quand même. Prochaine diapo. Face à la faute, j'aimerais vous présenter... Non, prochaine diapo. Non, avant, excuse-moi. Juste avant, voilà. Face à la faute, j'aimerais vous présenter maintenant Jésus, le juge. Je vais devoir rendre mon verdict. Et maintenant, c'est à vous de juger. Vous êtes du coup mes assesseurs. Vous êtes mes jurés. Je vous avais demandé, je vous avais dit au tout début de la réunion, on va assister à un procès, vous allez être mes jurés. J'avais dit que la salle devrait être peut-être un peu petite, mais maintenant vous êtes mes jurés. La femme adultère, elle est là. Et vous n'avez peut-être demandé rien à personne. Vous n'auriez jamais pensé ou imaginé venir dans un tribunal ce matin, mais c'est comme ça. Sautez avec moi dans la chaloupe de l'imaginaire. On a vu que Jésus était un brillant avocat, n'est-ce pas, messieurs, dames? Il a obtenu gain de cause auprès de cette femme, c'est bien, c'est bien. Mais maintenant, désormais, nous allons... Je suis un juge assisté et je vais demander au greffier, donc, à la paye de votre nom, peut-être, je vous invite à répondre présent. Voilà. Alors, je vais appeler maintenant Lydie Aragona. Non, il faut répondre présent, madame. Pardon? Voilà, présent. Merci. Madame Beltrus Sylvie, s'il vous plaît, dans la salle. Non, il faut répondre présente, madame. Voilà, présente. Présente, excusez-moi. Voilà, elle est bien là. Parfait. Je vais demander Elodie Capuano, s'il vous plaît. Présente, voilà. Monsieur Fabrice Servillon. Non, non, mais c'est pas là, monsieur. Présent, voilà, un peu plus fort. Bien, bien, bien. Bon, je vois que tout le monde est là. OK. Donc, on va procéder aux mains levées. Non, au vote. La question que je vais poser maintenant, s'il vous plaît, un peu moins de bruit, je vais demander sinon d'évacuer la salle. Maintenant, je demande à vous tous mes jurés, il faut avoir un peu d'imagination, hein. Face à l'accusation de cette femme prise en flagrant délit d'adultère, les faits sont là, elle est coupable ou non coupable, je vais vous inviter à rendre le peut-être le jugement. Je devais avoir normalement une perruque et une barbe, excusez-moi, j'ai pas eu trop le temps pour... Mais l'idée est un peu là. Elle l'a fait ou elle l'a pas fait? Est-ce qu'elle a commis un crime ou pas de crime selon la loi de l'époque? Qui pense qu'elle a commis un crime? Levez la main. Merci. Bon ben voilà, des gens bien. Qui pense qu'elle n'a pas commis de crime? Levez la main. 2-3 personnes, ouais. Bon. Ok. Mais quand même, il y a plus de personnes qui pensent qu'elle a commis un crime qu'elles pensent qu'elle n'a pas commis. C'est intéressant d'ailleurs, c'est intéressant. La réalité, les amis, c'est qu'elle a commis un crime et en fait, elle est coupable. Et d'ailleurs, si on est obligé de reconnaître qu'elle a commis un crime, d'ailleurs, s'il n'y a plus de justice, c'est l'anarchie. Donc il faut une protection de nos institutions, de nos États-Unis, de nos institutions des États-Unis d'Amérique. Il faut qu'on conserve. Une vie d'une femme est en jeu. Et en fait, cette femme est coupable. Et de cette position de juge, Jésus en fait est le seul juge qui peut jeter la pierre parce que c'est le seul qui est pur, qui est sans péché dans tout son pèlerinage sur terre. Jésus était le seul à pouvoir prononcer une sentence face à la grosse bêtise de cette femme. Et vous savez, et là, il faut imaginer, maintenant, je suis le juge, je suis Jésus, et je vais rendre mon verdict. Et à ce moment-là, prochaine diapo, juste avant, non, voilà, avant, Jésus, juste avant, juste, voilà, non, on va y arriver, merci. Non, c'était pas celle-là. Bon, tant pis. Merci. Jésus dira, cette femme se relève et ne voyant que ses accusateurs n'étaient plus là, Jésus dit, mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Et elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, va, je ne te condamne pas. Plus, je ne te condamne pas, moi non plus, va et désormais ne pêche plus. Donnez-moi toute votre attention et je termine ici. Cette femme-là a failli mourir il y a 2 secondes. Elle se retrouve face au temple qui symbolise la présence même de Dieu. Elle se présente devant Jésus qui était son avocat, qui l'a sorti du pétrin mais qui maintenant doit juger et donner une sentence. Et la grosse, grosse décision du juge face à une femme qui a enfreint la loi, qui a foiré sa vie, qui a fait n'importe quoi, vous savez ce que c'est? Il va vers elle et il lui fait « Hey, lève la tête, t'es là ?» Bon, tu recommences plus, hein. Tu fais attention à toi. Oui, oui. Allez, super. Lève-toi. Et vas-y. Vous savez, parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Pasteur Joe, moi, j'aime pas la religion. » Ben, je leur réponds « Tu sais, c'est des religions qui ont crucifié Jésus. » J'aime pas la religion et je leur réponds, en fait, c'est pas vraiment ton problème. Ton problème, c'est que tu comprends pas à quel point Dieu t'aime. Parce que si tu comprenais à quel point Dieu t'aime, tu pourrais pas t'empêcher de l'aimer en retour. Parce que quand tu te sens aimé de Dieu, je veux dire, inconditionnellement, ça te change. En fait, j'aimerais vous dire, les amis, qui que vous soyez, madame, jeune homme, jeune fille, qui que vous soyez, j'aimerais vous dire, c'est que Dieu t'aime quand tu le ressens. Et quand tu le ressens pas, Dieu t'aime quand tu fais la bonne chose et quand tu fais la mauvaise chose. Parce que son amour ne dépend pas de qui tu es, son amour dépend de qui il est. Il est profondément amour, il est profondément passionné, il est profondément pleinement différent de ce que nous pensons ou imaginons de l'amour. Et ce n'est pas basé par rapport à nos choix qu'on a foiré ou pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lors de la croix, quand Jésus est venu, il est mort. La Bible nous dit, il explique ça, il est mort sur cette croix, les bras étendus, les mains percées, pour tes fautes, pour tes erreurs, pour mes manquements. Jésus a montré ce niveau-là, à quel point il t'aime. Et vous ne pouvez rien rajouter de plus à cet amour. Vous ne pouvez rien faire en plus. Il n'y a pas un petit truc en plus que je peux faire pour essayer de rembourser le crédit. Est-ce que vous me suivez ? Et la religion, ce qu'elle a fait, les amis, et il y a plein de gens qui sont déçus de la religion, et je le comprends, c'est que la religion, elle a mis un escalier pour essayer d'atteindre Dieu. Or, quand vous lisez la Bible et le christianisme, c'est que Dieu a descendu l'escalier pour rejoindre l'homme. C'est ça la réalité de l'évangile. Et c'est saint Augustin, la prochaine diapo, qui disait « La mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure ». Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on se baptise ? Pourquoi le baptême ? Pourquoi est-ce que ces gens-là se baptisent aujourd'hui ? Ben, tout simplement parce qu'ils sont coupables et qu'ils ont décidé d'accepter Jésus comme un avocat. Et peut-être il y a... Moi, je suis coupable. Je suis aussi... Et peut-être qu'il y a des gens... Souvent, moi, quand je parle de Dieu, vous savez, à des gens de la rue, etc., et puis je parle de l'amour de Dieu, et puis il y a souvent un peu cette réaction de l'homme de la rue qui me dit « Vous savez quoi, monsieur ? Moi, je suis aussi bien que tous ces hypocrites qui vont à l'église le dimanche matin. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Je connais leur vie. Hein. Ben moi, je... » Et souvent, vous savez, je suis peut-être pasteur, mais j'ai une vie, je sors faire mes courses, je discute avec du monde. Et souvent, en fait, la discussion que j'ai avec plein d'incroyants ou des gens qui ne sont pas forcément câblés avec Dieu, je leur dis « Ouais, mais en fait, c'est bien parce que vous vous comparez aux autres. » Sauf qu'un jour, vous allez mourir. D'après les dernières statistiques que j'ai vues, c'est à peu près 100% des personnes, hein, si je ne me trompe pas. Ça a changé, non ? 100%, je crois qu'à un moment donné, on va casser sa pipe, on va aller de l'autre côté. Et peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver devant Dieu. Et là, il n'y aura plus les autres, vous ne pourrez plus vous comparer aux autres. Et en fait, c'est vis-à-vis de Dieu et de ses normes et de ses standards à lui. Est-ce que quelqu'un a déjà menti ici ? Qui n'a jamais menti ? Lève la main. T'es un menteur. Est-ce que quelqu'un a déjà triché ici ? Pas au Monopoly. Ah, tiens. Menti, tricher, bah finalement c'est bien en fait, vous êtes tous des coupables. Est-ce que quelqu'un a déjà trompé sa femme ? Non. Jamais, moi monsieur, je suis fidèle en amour. On s'aime depuis 65 ans. Par contre, la Bible, elle dit que tu peux tromper ta femme juste en matant une autre meuf. Oups. Oh, quand même, là, le niveau, il est haut. Hein. Ça monte très, très haut. Donc, en fait, d'après les normes et les standards divins, vous ne pouvez pas aller au ciel. Et n'en déplaise à Michel Polnareff, on n'ira pas tous au paradis. À moins que vous acceptiez Jésus dans votre vie. Cet avocat. Et c'est ce qu'ont fait les baptisés. Et je citais tout à l'heure Georges Brassens, qui n'était pas religieux, et il disait « Jetez pas la pierre, je suis derrière la femme adultère ». En fait, ce qui est touchant avec notre cher Georges, c'est qu'il y a un aveu de culpabilité. Je reconnais que j'ai fait, que j'ai foiré ma vie, je reconnais que j'ai fait du mal, je reconnais que j'ai fauté. Et c'est peut-être bien, mais en fait, si vous reconnaissez dans la vie que vous avez peut-être merdé, que vous avez fait parfois des fautes, c'est bien. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, c'est le premier pas pour s'en sortir. Mais j'aimerais vous dire, c'est que juste un premier pas. Il faut beaucoup plus de courage pour accepter Jésus. Et c'est une démarche qui est plus grande encore. C'est de reconnaître que vous avez besoin de son pardon, que vous acceptiez son amour. Et je termine avec cette pensée. Finalement, le baptême symbolise une mort à son ancienne vie. Et en fait, ce qui est extraordinairement touchant, et je vais leur laisser la place tout de suite, c'est qu'ici, quand on voit ces jeunes filles qui sont là, c'est le festival des vies transformées. C'est des jeunes filles, et je vais leur céder la place tout de suite, qui racontent « voilà comment j'étais ». Voici ce que Jésus, j'étais fautif, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais Jésus est venu dans ma vie. Voilà ce que ça a changé. Et les amis, il y a des millions, des milliards de personnes qui font cette expérience de recevoir la vie de Jésus dans la vie d'une personne et ça change les vies. C'est vrai. Tourne-toi vers ton voisin et tu dis, si tu ne le connais pas, tu devrais essayer. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Et la prochaine diapo, j'ai demandé au pianiste de venir. Je termine avec ces deux pensées. Si tu veux juste éteindre le rail de lumière ici. Voici, Augustin disait, il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Qui que vous soyez, madame, monsieur, on a tous dans notre cœur un besoin de nous connecter au divin. On a besoin de nous connecter à quelque chose de plus grand de nous-mêmes. Et j'ai cette citation de Blaise Pascal également, la dernière diapo. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes plutôt cérébral, vous êtes plutôt intelligent? Quel bac scientifique ici? Ok. À tous ceux qui ont un peu de jus de cerveau et qui réfléchissent un peu, cette citation, elle est pour vous, c'est Blaise Pascal qui dit « C'est le cœur qui sent Dieu ». Et non la raison. Blaise Pascal, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste. C'était un grand français que le monde ait connu. Et c'était quelqu'un qui était très intelligent, matheux de surcroît. Et lui-même avait ce combat-là entre notre raison et notre cœur. Et peut-être vous êtes là aujourd'hui, vous dites c'est bien beau toutes ces histoires. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. J'aimerais vous dire, qui que vous soyez, il faut à un moment donné que votre cœur descende, que votre cerveau, pardon, descende juste à votre cœur. Je vous inviterai tous là où vous êtes à juste fermer vos yeux dans un moment de recueillement. À tous ceux qui le veulent, juste fermez vos yeux. Alléluia. Et j'aimerais prier avec vous. Alléluia. J'entends la voix de Dieu qui dit « Bienvenue à la maison ». J'entends juste Dieu qui dit « Bienvenue, bienvenue à la maison ». Saint-Esprit, est-ce que tu pourrais maintenant, s'il te plaît, toucher les cœurs, même les plus durs et les plus renfermés ? S'il y a des gens ici qui se sont égarés, comme cette femme, qui se sont perdus, j'aimerais vous dire, qui tu es, Dieu ne juge pas ta vie. Il dira à cette femme, il la relève, il la reconstruit et il lui dit, ne t'égare plus, va et ne t'égare plus, ne pêche plus. Il y a cette invitation à une nouvelle vie. Alléluia. Il y a cette invitation qui est là. À une vie différente. À vivre, à ouvrir ton cœur. Peut-être c'est, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, je ne sais pas ce que sera demain. Mais peut-être c'est ton moment à toi, c'est cet instant précis d'ouvrir ton cœur. Et j'aimerais prier pour toi. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, j'aimerais donner ma vie à Christ. J'aimerais confier ma vie à cet avocat dont tu parles. Alors qu'on garde les yeux fermés, juste s'il y a quelqu'un, c'est votre cri, c'est votre désir du cœur, j'aimerais prier pour vous. Et je vous demande juste, là où vous êtes, de lever votre main, j'aimerais prier pour vous maintenant. Gardons les yeux fermés, juste par rapport et respect par rapport aux gens qui sont autour de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus ce matin? Juste lever ta main, j'aimerais prier pour toi. Ok, merci, je vois ta main. Plusieurs mains qui se lèvent, ok. Eh bien, je vous invite tous à vous lever, s'il vous plaît. On se lève tous ensemble. Je vous demande juste de fermer les yeux pour ce moment très solennel. Alléluia. Gardons les yeux fermés, s'il vous plaît, juste quelques minutes encore. Et je vais vous inviter à faire cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Et peut-être les chrétiens, nous pourrons aider aussi ceux qui le font pour la première fois. Et je vous invite à le dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai essayé parfois, et je reconnais parfois que j'ai manqué. J'ai besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner un coup de main? Et aujourd'hui, je veux t'amener mon cœur. Alors, Saint-Esprit, je te prie maintenant de toucher les cœurs. Je vous demande juste de fermer les yeux encore, peut-être quelques secondes. Est-ce que vous pourriez juste peut-être juste tendre vos mains comme un cadeau, comme un enfant qui tend les mains vers son Père, qui reçoit l'amour divin. Et Saint-Esprit, je te prie maintenant de toucher, je te prie de venir déverser ton amour. Oh, je te prie de venir faire quelque chose qu'il n'était pas possible dans le cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens faire quelque chose de nouveau. Viens créer quelque chose de nouveau. Je te prie de donner de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Je te prie d'enlever de l'amertume aux âmes qui ont été blessées, brisées. Je te prie de donner un rêve à nouveau à ceux qui n'en ont plus. Je te prie de donner du pardon là où il n'y en a plus. Je te prie d'enlever toute dépression, toute amertume, toute grisaille et d'amener ta lumière, ta joie et ta paix. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen et amen et amen. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble Jésus? Alléluia. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir, les amis. Waouh! Vous êtes acquittés. On va procéder. JD, tu veux bien venir? On va procéder au baptême. Les enfants. Alors. Oui, oui. Ici. Asseyez-vous, mon Dieu. Il y a l'armée qui vient. Oh, Seigneur Dieu. Tout le monde. Les enfants, on s'assoit. Non, stop. Laissez. Ok, là-bas derrière. Ah ouais, il y en a 50. Bon, ok.
Il faut aller tout coucou.
Est-ce qu'on peut faire un petit couloir?
Allumé.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On va passer au temps des baptêmes. Donc, pourquoi les baptêmes ? Vous dites peut-être qu'est-ce que c'est ce rituel ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Simplement, c'est un exemple que Jésus nous a donné dans la Bible. Jésus lui-même s'est fait baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste. Et comme on a vu, lui, il n'a jamais péché. Donc, c'est bizarre, puisque lui, il n'avait pas besoin d'être baptisé, puisqu'il n'avait jamais péché. Mais Jean lui a dit, il est important d'accomplir toute justice. Et il l'a fait comme un exemple. Et c'est pour ça que les croyants, ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, pour leur péché, qu'il a donné sa vie à la croix, eh ben, ils passent par ce baptême, simplement une image, en fait, qu'ils étaient morts et qu'ils réussissent à la vie grâce à l'action de Jésus dans leur vie. Voilà, donc on baptise pas des enfants, nous, parce qu'on croit qu'il faut être adulte, qu'il faut être... la Bible nous dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on croit dans notre cœur de pleine conscience. C'est un choix qui est délibéré, c'est pesé, c'est mûri. Vous voyez, on les appelle les quatre fantastiques ou les quatre fabuleuses, qui sont de... On peut les applaudir. C'est un choix qu'elles ont fait en toute connaissance de cause, et c'est pour ça qu'elles vont vous le témoigner aujourd'hui. Elles ont pris le temps pour mûrir cette décision, elles sont libres de le faire. Et aujourd'hui, elles veulent témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. La Bible nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est aussi quelque chose qui est important. Et le terme baptisé en grec, c'est être immergé dans. Donc voilà, c'est pas juste des petites gouttes qu'on verse, c'est être immergé. On est mort en Christ et on ressuscite en Christ. C'est pas un acte magique, mais c'est un acte symbolique de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est pour ça qu'on n'a pas juste une petite coupelle avec quelques gouttes d'eau, mais on a un baptistère. Alors voilà, c'est un petit jacuzzi aujourd'hui parce qu'on fait avec les moyens du bord, mais ça suffira pour qu'elle soit immergée et qu'elle ressorte. Voilà, donc on aura ce temps après, on va leur demander de confesser leur foi. On va les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et elles vont ressortir et vous pourrez les applaudir et chanter avec nous. Mais avant, je crois que c'est important qu'elles nous disent pourquoi elles veulent se faire baptiser. Qu'est-ce que Jésus a fait dans leur vie? Pourquoi elles sont là devant vous aujourd'hui? Peut-être pourquoi elles vous ont invité à venir? Pourquoi c'était important pour elles que vous soyez là ce matin? Et voilà, donc je pense qu'on les a encouragées, elles vont venir à tour de rôle. La première qui ouvre le bal, qui est courageuse, c'est Kenza, alors on peut l'applaudir. Tu viens, Kenza? Voilà. Il y aura Jess qui est missionnaire aussi, qui est d'origine grenobloise avec son mari Seb et qui est missionnaire à Glasgow en Écosse, qui suit et qui accompagne Kenza, donc c'est elle qui va la baptiser ce matin. Voilà, je vais laisser la parole à Kenza et puis qu'elle vous dise ce que Jésus a fait dans sa vie.
Bonjour tout le monde, c'est un petit effort là que je fais de parler devant autant de personnes. Déjà, je tiens vraiment à remercier sincèrement tous mes amis qui sont venus et ma famille de loin, de Suisse, de Marseille, de Paris, d'un peu partout. Donc vraiment merci parce que c'est un jour important pour moi. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kenza Leba. J'ai grandi à Bali, une île qui est bien chargée en spiritualité. Je suis issue d'une famille non chrétienne. Et depuis que je suis toute petite, je priais, mais sans trop savoir qui, ni comment, ni quoi. Mais je ressentais toujours une forme de force qui me gardait sur le droit chemin, malgré les mauvaises décisions que j'ai pu souvent prendre dans ma vie et des moments assez durs que j'ai pu vivre. Et aujourd'hui, je ressens le besoin de partager avec vous mon chemin authentique de foi. Et il y en a sans doute qui peuvent se demander, mais pourquoi tu te fais baptiser? Tu t'es déjà fait baptiser plus petite? Ou est-ce que c'est pour te marier? Mais c'est rien de tout ça. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Raph, mon amoureux, et son petit frère Manu nous a parlé d'une église qu'on a commencé à fréquenter à Paris, MLK, pour ceux qui connaissent. Et Raphaël a alors proposé de partir en Israël. C'était un voyage enrichissant, qui m'a permis de comprendre qui était Jésus et pourquoi il a eu un rôle aussi impactant. J'ai pu retracer toute son histoire avec plus de clarté et de théologie. Mais ce qui a vraiment tout changé pour moi, c'est un jour où ça allait pas hyper bien dans ma vie et je suis partie toute seule à Marseille un week-end. Et moi qui n'ai jamais été très, très scolaire et je ne suis pas une grande lectrice non plus, j'ai écrit à Manu pour lui dire que je souhaitais acheter une Bible, mais que je ne savais pas laquelle et que j'étais sûre de rien comprendre. Et Manu m'envoyait des petits liens de Bible sur Amazon. Et par peur, je n'ai pas procédé à l'achat. Je sors du train et j'avais une Bible posée à mes pieds. Et voilà, c'était que le début d'une longue série de signes qui ne pouvaient pas être dus au hasard. Et c'est un message de Dieu qui me guide, qui me dit qu'il est là. Et Jésus sauve. Et Dieu m'a déjà tellement aidé à guérir des blessures qui me semblaient inguérissables et qui a changé ma vie. Et c'est en train de faire quelqu'un de moi meilleur et transformé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je témoigne devant vous, les gens que j'aime le plus, que Dieu a touché mon cœur et il m'a transformé pour me permettre de devenir une nouvelle femme. Et je tiens à remercier aussi Nathalie, qui est la maman de celui que j'aime, qui m'a déjà tellement appris sur la foi et qui m'a aidée en tant que bébé chrétienne. Et Emmanuel aussi, dont le témoignage, après avoir vécu des épreuves vraiment difficiles, m'a profondément touchée et influencée. Et il a été sauvé par la grâce de Dieu. Et cela m'a montré combien sa puissance est réelle et capable de transformer nos vies. Et pour finir, j'ai vu mes peurs se transformer en paix et mes doutes se dissiper et une nouvelle force grandir en moi. Et aujourd'hui, je m'engage à le suivre. Merci.
Amen. Elle est partie. Donc la famille, si vous voulez prendre des photos, vous pouvez vous approcher parce que.
Donc Kenza, on a entendu ton magnifique témoignage et comment Dieu est venu à ta rencontre. Est-ce que devant nous tous, tu peux confirmer que tu as compris que Jésus a payé pour tes péchés, qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il est ressuscité et qu'il t'a donné une vie nouvelle?
Oui.
Est-ce que tu es prête à le suivre et être son disciple?
Oui.
Alors sur ta confession de foi, Kenza, je te baptise. Avance un petit peu. Voilà. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ouais. Ton nom est le plus grand, ton nom est le tout puissant, ton nom. Et au-dessus de tout, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité. Jamais tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint.
Amen, gloire à Dieu. La Bible nous dit que dans le ciel, il y a plus de joie pour un seul qui se repent que pour 99 justes. Amen. Donc aujourd'hui, c'est quatre fois la fête. Et ben, la seconde courageuse, c'est... Elles sont toutes courageuses, c'est Émilie. Émilie, on peut l'applaudir bien fort. Ah, il est là, ton mari. Ok, je cherchais. Voilà, wow. Je te laisse la parole, Émilie.
Merci. C'est pas évident de passer après tout ça. Alors, bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans. Je suis mariée et maman de deux enfants. Voilà, avec mon mari Grégory. Il est là. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai pris la décision de me baptiser devant ma famille et amis. Le chemin pour arriver au baptême n'a pas toujours été facile, mais ce jour-là est arrivé, j'en suis très heureuse. J'ai toujours cru en Dieu depuis que je suis petite. J'ai grandi avec des parents croyants catholiques. J'ai même été baptisée quand j'étais petite. Il y a une dizaine d'années de ça, j'ai commencé à aller au culte le dimanche, car mon mari est chrétien depuis qu'il est petit. Et ce jour-là, j'étais en train de traverser une épreuve compliquée avec mon mari. Je suis donc arrivée à l'église attristée, pas bien. Il y avait des louanges et déjà là, j'ai commencé à ressentir quelque chose, des frissons. J'avais les larmes aux yeux. Et lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai pleuré. J'avais une sensation d'un poids en moi. J'avais la paix et je me sentais aimée par Dieu. C'était comme si il me prenait dans ses bras et me disait « Je suis là, mon enfant. » Je tremble comme une...
On est là.
À partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter des louanges, à lire la parole de Dieu et à prier. Dieu a répondu à mes prières. Il a changé mon caractère, a apaisé mon cœur et aujourd'hui, je ne suis plus la Émilie d'avant où j'étais très rancunière avec un fort caractère qui voulait se venger au moindre mal que l'on me faisait. Je suis beaucoup plus calme, patiente, apaisée. Et par ce changement, notre vie de famille, notre vie de couple a également changé. Nous avons la paix, nous sommes unis, nous travaillons même ensemble, chose qui était impossible il y a 10 ans en arrière. Malgré les épreuves de la vie, Dieu ne me laisse pas. Il me donne la force d'avancer. Chaque jour, il me bénit et me protège et apaise mes peines. C'est pour ça que j'ai pris la décision de me baptiser, car pour moi, Dieu a changé ma vie. Sans lui, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Il n'y a pas un jour où je ne prie pas pour ma famille, pour les gens que j'aime. Alors merci Seigneur pour tes bénédictions, pour ton amour éternel et ta grâce. Amen.
Super, merci Émilie. Donc c'est Jonathan, notre pasteur, qui va baptiser Émilie. Donc pareil, si ceux qui veulent prendre des photos, la famille, les amis.
Émilie, est-ce que aujourd'hui tu reconnais Jésus comme ton Sauveur et Seigneur personnel ?
Oui.
Est-ce que tu décides aujourd'hui de lui confier, de lui donner ta vie dans les bons jours et dans les mauvais jours ?
Oui.
Alors selon ta déclaration de foi, aujourd'hui nous décidons de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Le voile s'est déchiré, des âmes en là-bas et le péché. Les cieux chantent ta gloire.
Allez, on peut se lever et chanter ensemble.
Ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, tu es sans à tout jamais, à toi
Amen. Ça va, vous êtes dans la joie? Alors maintenant, eh ben, il nous reste les deux plus jeunes de notre quatuor des quatre fabuleuses. Donc c'est Elia qui va me rejoindre. On peut l'applaudir, l'encourager. Et son oncle Benjamin, qui est pasteur de l'église Bonne Nouvelle au Puy-en-Velay, qui va la baptiser. Tu peux venir avec nous, hein, Benjamin, si tu veux. Alors Elia, elle va faire comme ça parce qu'elle nous a dit, moi, j'ai pas besoin de papier pour préparer, je peux être spontanée, ce qui me vient. Voilà, donc elle a la trame dans sa tête, mais c'est très bien ce qu'elle veut nous dire de ce que Jésus a fait dans sa vie. Donc je lui laisse la parole.
Yes. Bah déjà, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Enfin, moi, je ressens d'abord vraiment le besoin de remercier parce que il y a déjà toute ma famille qui est là. Du coup, vraiment, c'est énorme. Et ouais, je suis super contente de me faire baptiser. Et ouais. Enfin, je suis vraiment contente parce que c'est vrai que je pars d'assez loin. Enfin, j'ai grandi dans une famille. C'était pas. Enfin. Ma mère, elle était chrétienne. Et mon père, il détestait les chrétiens. Pour lui, c'était Dieu qui avait tué sa sœur. Et enfin. Du coup, c'était pas forcément autorisé de parler de Dieu à la maison. De lire la Bible. Moi, des petites, je pense que les premiers livres que j'ai lus, c'est quand même la Bible. Mais après, on s'est vite mis au pli de notre père. Et on a beaucoup suivi un peu ce qu'il nous disait, que ça n'existait pas, que Dieu, il était mauvais, qu'il était méchant. Et du coup, on ne s'est pas forcément remis à lui. Et mon père, il avait aussi beaucoup de colère. Par exemple, il y avait beaucoup de repas à table où il se mettait en colère. Il était pas très juste avec ma mère. Et il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais il y a aussi eu des beaux moments, notamment au snowboard, dans montagne. Et la vie, elle s'est déroulée un peu comme ça, jusqu'à ma troisième. Et après, ma mamie, la mère de ma mère, elle est morte d'un cancer du cerveau, qui a duré assez longtemps. Et là, ma mère, elle a été vraiment triste. Et mon père... Il n'a eu aucun soutien pour elle. Enfin, il faisait des crises de jalousie. Il était violent avec elle. Enfin, dans ses mots surtout. Et un jour, en revenant du collège avec mon frère, on est rentré à la maison. Et mon père, il nous a dit que ma mère, elle n'était pas là. Enfin, qu'elle ne reviendrait pas, qu'elle était partie dans une secte. Du coup, on l'a cru. Et pendant 2 mois, ça a été horrible. Mon père, il buvait. Et on s'est pris un peu des coups, des insultes. C'était pas... Moi, dès que je rentrais du collège, je restais le plus longtemps possible dans la forêt pour éviter au maximum de le voir. Et ça a commencé. Et tous les soirs, c'était horrible. Au repas, il y avait beaucoup de colère. Il nous forçait à monter sur le quad et il était bourré. En pleine nuit, c'était des fois dangereux. Il me forçait à fumer le soir, des fois. Et il avait des insultes qui sont dures à recevoir, des fois, quand on est une femme. Et ça a été compliqué. Mais je perdais beaucoup de poids, mais j'ai commencé beaucoup d'insomnie. Et après, quelques semaines après, ma mère, elle est revenue. Et elle a pris un appartement en ville. Nous, ça a été un vrai choc parce qu'on avait toujours grandi en campagne. Et quand elle nous a récupérés, elle était en fait à l'hôpital. Et elle nous a dit, dans un centre chrétien, et elle nous a dit qu'elle ne nous reconnaissait plus. Qu'on avait changé, qu'il y avait beaucoup de colère. Et ça a été encore injuste pour elle parce que nous, on lui en voulait, on croyait qu'elle nous avait abandonné. Du coup, on a eu des mots difficiles. Du coup, je m'excuse. On a quand même continué à aller chez mon père parce qu'il avait une emprise sur nous. Enfin, on sentait qu'en fait, j'avais peur que si je partais, il allait se tuer et que. Enfin, on sentait comme si on devait s'occuper de lui alors que c'était pas notre rôle. Et ça a continué un an comme ça. Et il y avait toujours les semaines où on était chez ma mère, où on était apaisé. Et les semaines où on était chez mon père et c'était très dur. Mais mon frère, en mince, il a cédé le premier et il a demandé à vivre que chez ma mère. Et il est allé. Il a porté plainte contre mon père pour maltraitance. Moi, j'ai encore voulu continuer et tenir. J'étais plus dans un état, survivre, tout simplement. Et puis jusqu'à ce que je tienne plus, et quelques mois après, pareil, je suis allée vivre que chez ma mère seulement. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et là, j'ai compris. En fait, quand je vivais tout ça, ça allait, parce que je réalisais pas, et ça a été après le plus dur de réaliser, que j'avais perdu les trois quarts de ma famille, toute la famille du côté de mon père, en fait, je n'imaginais pas qu'ils étaient comme ça. Et ouais, ça a été ça le plus dur. Et dans ce moment-là, j'ai beaucoup marché, beaucoup couru. Je suis partie beaucoup en montagne, je faisais que ça. Et ça allait pas, les insomnies, ça continuait. Puis là, j'ai décidé de tout laisser au Seigneur. Et ça allait beaucoup mieux. J'ai réussi à pardonner à mon père. Et aujourd'hui, quand il a beaucoup moins de sautes d'humeur, on arrive parfois même à faire un repas avec lui. Donc c'est vraiment énorme. Et franchement, à partir du moment où j'ai demandé d'agir pour moi, ça a tout changé. J'ai vraiment reçu de la paix. Il a travaillé mon cœur. Il m'a tellement aidée. Vraiment, et abandonner un père terrestre pour avoir un père céleste, c'était vraiment le meilleur choix de ma vie, la meilleure décision de ma vie. Et après, j'ai étudié la Bible, et plus j'ai étudié la Bible, et plus j'allais en forêt, et plus je priais, plus je voyais que le Seigneur, j'étais toute seule en montagne, en fait, et il me parlait à travers la nature. Et j'étais là, j'étais transportée, je sentais vraiment son amour, c'est un truc de ouf, c'est fort, et franchement, je vous dis, tout le monde devrait vivre ça et tout le monde devrait ressentir l'amour d'un père comme ça parce que franchement, c'est un père parfait. Et ouais, c'est dingue. Franchement, je réalise pas. Et franchement, j'ai une chance de malade. J'ai une chance de malade parce que j'ai Dieu avec moi. Et je tiens même plus de vous, mais c'est énorme. Et franchement, je vous dis, je voudrais que tout le monde ait le Seigneur dans sa vie, parce que c'est un truc de dingue. Et franchement, il apporte la paix, l'amour, Ouais, toute ma vie, je veux continuer d'étudier. Là, je vais faire une année biblique l'année prochaine. Je veux vraiment lui dédier, avant même mon métier, je veux vraiment que ma première vocation, ce soit de rechercher le Seigneur, de le trouver partout, de lire ma Bible. Et c'est pour ça que je vais me faire baptiser ce matin Et merci vraiment à tous.
Amen, gloire à Dieu. C'est beau de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens, comment il console, il restaure, il guérit et il déverse son cœur de père. Amen. Allez Elia, c'est à ton tour.
Voilà, Elia, on va te poser quelques questions avant que nous puissions te baptiser. Est-ce que tu crois, Elia, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Est-ce que tu t'engages maintenant à le suivre dès à présent et jusqu'au bout ?
Oui.
Est-ce que tu crois que lorsque Jésus reviendra chercher son Église, il te prendra aussi avec lui ?
Oui.
Et bien sûr, ta confession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à lui.
Allez,
à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à lui. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir.
Amen. Il est le Dieu sans limite. Il est celui qui peut tout accomplir. Et c'est ce qu'on peut voir ce matin à travers ses vies transformées, à travers cette joie, ces regards, profondeur de ce qui est partagé. Et il nous reste Enola. Ça va, Enola ? Alors allez, on l'encourage. Ok, Enola. Eh ben, c'est la fille de Jules et Zaza qui sont dans notre église. Donc Jules qui a la louange. Et elle a souhaité que ça soit Jules et son grand-père Gérard, qui est pasteur aussi, qui puissent la baptiser. Voilà, donc c'est eux qui vont officier dans quelques instants. Mais je laisse la parole à Enola pour nous dire aussi ce que Jésus a fait dans sa vie.
Tu m'enlevais un truc à dire, c'est bien, merci. Du coup, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enola, j'ai 19 ans. Donc je suis la fille de Jules et de Zaza. La seule fille, donc la plus parfaite au milieu de trois garçons. Logique. Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne et donc j'ai toujours entendu parler de Dieu. Et donc j'ai toujours senti qu'un jour, c'était normal que je sois debout devant vous pour vous raconter tout ce que je vais vous raconter. Quand j'étais petite, mes grands-parents, ils avaient une église, donc toute ma famille y allait. En bref, je mangeais, je buvais, je dormais à l'église. C'était vraiment... Le mardi soir, j'étais à l'église. Le dimanche matin, j'étais à l'église tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon père et ma mère, ils faisaient déjà ce qu'ils font là maintenant avec vous. Donc, mon père faisait déjà la louange et ma mère, elle faisait déjà les enfants, enfin, elle s'occupait déjà des enfants. Mais la vie de chrétien, elle n'est pas synonyme de vie parfaite. C'est pas synonyme de, enfin, c'est pas sans difficulté, c'est pas sans coup de gueule, c'est pas sans leçon à prendre non plus. Et c'est pas toujours rose. C'est comme ça qu'à l'âge où j'ai pu comprendre les choses, mon regard sur certaines situations et sur certaines personnes qui sont plus ou moins proches de moi a radicalement changé et où j'ai appris que l'humain peut être vraiment très méchant. Et en tant qu'enfant à qui on a appris que Dieu pouvait tout régler, même les situations les plus complexes, j'étais vraiment très frustrée et qu'il ne soit pas intervenu dans ma famille et du coup je me suis beaucoup éloignée de lui, enfin, je mettais un peu tout ça de côté en fait. En 2013, on quitte ma ville natale, donc j'habite à Saint-Dizier dans le nord de la France, et on vient s'installer à Grenoble. C'est une sorte de nouveau départ qui n'a pas été très facile pour mes parents. On est parti du jour au lendemain avec un bébé sur les bras, des enfants qui sont encore tout petits, dans une ville qu'on connaît pas, avec peu dans les poches. Et c'est une des choses qui fait que j'admire le courage de mes parents, parce que vraiment, je pense que si c'est moi qui devais le faire, je l'aurais pas fait. Même si Dieu m'aurait appelé, je l'aurais pas fait. Vraiment, c'est trop compliqué. Et comme on change pas les bonnes vieilles habitudes, pardon, nous voilà dans une nouvelle église. L'appel de Dieu sur le cœur de mes parents fait que de nouveau mon père se retrouve à la louange et que ma mère s'occupait des enfants. Mais pour être honnête avec vous, moi j'allais avec mes copines. Mais vraiment que pour mes copines. Ma relation avec Dieu, elle était inexistante. Et je voulais pas en entendre parler. Puis vient le confinement où vraiment là, j'avais vraiment plus aucune relation avec Dieu. J'ouvrais pas ma Bible, j'écoutais pas de louange. Vraiment, je priais même plus. C'était... fini. C'était une vie humaine, enfin une vie de quelqu'un du monde. La fin du confinement, j'ai à peine 15 ans, je dois reprendre mes études du coup, parce que bah, c'est normal. Et je voulais être dans un domaine particulier, donc le monde de la coiffure. Et mon jeune âge et les restrictions sanitaires ont fait que j'ai pas pu réaliser mon rêve tout de suite. Et Mélide, elle m'est bien restée en tête, hein, vous inquiétez pas. Pas choix de partir sur un plan B, donc je tiens 2 ans dans des crises d'angoisse avant d'aller en cours. Et j'arrête tout à ce moment-là pour chercher un patron et faire ce que j'aime. C'est là que mon chemin avec Dieu a redébuté. J'avais une liste de salons et quand j'arrive au premier salon, la gérante elle me dit qu'elle cherche pas, mais elle appelle une de ses copines pour lui dire que j'allais passer. Et je voulais quand même faire les autres salons de la liste. Mais les salons, ce qui était trop bizarre, c'est qu'ils étaient soit fermés définitivement, soit inexistants. Et avec ma maman, on s'est regardé, on s'est dit non, c'est un signe de Dieu, faut vraiment que j'aille là où j'étais attendue. Mais en signant ce papier, je ne savais pas que j'avais signé pour un cauchemar. À la fin du premier mois, avec cette patronne-là, ça change du tout au tout. J'étais menacée devant ma maman. J'étais prise en grippe par ma patronne et mes collègues. J'étais accusée à tort de vol. Et j'avais sans cesse une pression psychologique qui m'empêchait d'avancer et de vivre ce que je devais vivre et d'avancer comme je devais avancer. Donc j'ai quitté le salon mi-décembre. Et j'en avais trouvé un tout de suite après. Et j'ai vraiment cru que le problème, au bout d'un moment, c'était moi. Parce que, bah, pareil, au début, tout était beau et rose. Et d'un coup, tout a rechangé. J'étais humiliée devant toute la rue. Elle m'a fait des choses de fou. Mais entre-temps, dans ma tête, il y a quelque chose qui ruminait. Je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. Je priais tous les jours parce que j'avais vraiment plus de force. J'allais abandonner tellement de fois ce que j'aimais, juste parce que j'en pouvais plus. Et tous les soirs, je priais. Et je comprenais pas pourquoi je vivais ce que je vivais actuellement, pourquoi c'était si compliqué. Et en fait, je pense que bien souvent, quand on est dans une famille chrétienne où on baigne dans une certaine atmosphère paisible, on vit avec l'expérience et le témoignage de nos parents. Donc forcément, on se dit que Dieu, il va tout pourvoir et il va tout faire. Mais pour grandir, je pense qu'il est important de faire ses propres expériences et d'apprendre à connaître notre Dieu et qui il est réellement. C'est peut-être pas des situations très flagrantes parce que il peut intervenir dans n'importe quel domaine. Et en plus, quand Dieu il est en plein milieu de notre entourage et qu'il est au centre de tout, on a une certaine sensibilité aux choses qui nous entourent. Et quand bien même on n'est pas fait les 400 coups, parce que c'est comme ça. Quand bien même on n'ait pas fait les 400 coups et qu'on ait parfois fait des mauvais choix, on sait que Dieu il est là pour parler à nos cœurs et pour nous enlever du mauvais chemin par sa bienveillance et son amour inconditionnel. Au travers de tout ce que j'ai pu voir et vivre, avoir Dieu dans sa vie, c'est le plus bel héritage que nos parents et nos grands-parents peuvent nous transmettre. Même quand c'est pas facile, Dieu est fidèle. Ce n'est pas juste une question de confort. Il n'est pas juste là pour répondre à nos besoins et nos prières, mais il est aussi là pour parler à nos cœurs. Et si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est parce qu'il a parlé au mien, pardon. Et aujourd'hui, j'affirme que Dieu est mon roi et que je dépose ma vie dans ses mains.
Amen. Et Noah, ma fille, est-ce que tu crois que Dieu t'a créé ?
Oui.
Est-ce que tu crois que Jésus va te conduire sur le chemin de ta vie jusqu'aux portes de l'éternité ?
Oui.
Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit t'accompagne et te donne la force de vivre cette relation avec Dieu ?
Oui.
Alors sur cette confession de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise.
All I need is you. Is you, Lord. All I need is you. And all I need is you. You love.
ont besoin de toi.
Mais de toi,
j'ai besoin de toi. Ont besoin de toi, oui de toi, j'ai besoin de toi. Cause all I need is you, Lord,
is you, Lord,
all I need is you. Cause all I need is you, Lord. All I need is you, Lord. Yeah, 'cause all I need is you. 'Cause all I need is you. 'Cause all I need is you. All I need. J'ai tant besoin de toi,
oui de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, oui de toi,
j'ai besoin de toi.
On peut se lever ensemble.
Ce nom est si merveilleux.
Simplement
le
remercier
nom
Seigneur.
De Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sans pareil, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. Écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité, et tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
On applaudit le Seigneur ce matin. Amen. Vous êtes dans la joie. Alors souvent on dit que les meilleures choses ont une fin. Pas ici. Nous avons le ciel, le royaume qui est en haut. Efforcez-vous d'y rentrer de manière à ce que le Seigneur puisse passer une éternité ensemble. Voilà, merci au nom de Connect, l'Église Connect. On vous remercie de votre présence. On a passé un bon moment. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de ranger les chaises, les empiler 13, de manière à qu'on puisse aussi passer un temps tous dans la salle d'à côté, un apéro dînatoire. Ça, c'est l'Église qui continue. Amen. On s'arrête pas là. On continue. On est vraiment content de vous offrir un verre de l'amitié et verre fraternel. Un, c'est biblique. Deux, attention. Soyez bénis. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne route. Voilà pour les baptisés alors. Priez, ils vont. Il y a un combat. Priez pour eux. On ne l'oublie pas dans la prière, dans la communion fraternelle. Merci à vous tous. Shalom à vous.
Je vais m'en occuper.
Je sais pas s'il est.
Merci.